Bonjour à tous. La plupart me connaissent, en tout cas. Comme vous avez entendu, je m'appelle Jackie. Je suis un agriculteur à la retraite. J'ai eu d'autres métiers, mais l'agriculteur, c'était toute ma vie, quoi. Et je suis encore actif là-dedans. Mais j'aimerais plutôt vous présenter un autre ami ce matin. Mais d'abord, je voudrais encore prier. Père, nous sommes là. Comme nous l'avons entendu, nous pouvons venir dans le secret de nos cœurs, devant ta face. Tu connais chacun d'entre nous, nos pensées, tout ce qui nous travaille, tout ce qui nous réjouit et ce qui nous accable aussi, Seigneur. Et nous te demandons que ce matin, ton Esprit Saint nous élève vers toi et que cette puissance que tu nous as donnée, Seigneur, purifie nos pensées pour que nous puissions être à ton écoute et recevoir ce que tu veux nous donner. Amen. J'aimerais vous présenter un prophète de l'Ancien Testament. Tout à l'heure, on prendra un passage de sa vie. Ézéchiel, un grand prophète. Ézéchiel, pour le placer historiquement, c'est le fils d'un prêtre qui s'appelait Bouzi. Son père, ce prêtre, était un sacrificateur. Et Ézéchiel fait partie de la première vague de déportés. Vous savez, de Juda, une partie a été emmenée et on a installé un autre roi. Et Ézéchiel a été déporté et il vit sur les rives du fleuve Kébar en Babylonie. La déportation a eu lieu en 605 avant Jésus-Christ. Et 12 ans après, il a une vision de la gloire de Dieu. Pendant que lui, il était en Chaldée, donc à Babylone, Jérémie était prophète à Jérusalem. Il y avait encore le temple, il y avait encore un peuple. Pour l'instant, ça tournait encore. Jérémie exerce son ministère à Jérusalem parmi ceux qui sont encore en sursis de déportation. Et c'est le roi Sédécias qui a été installé en remplaçant de celui qui a été déporté. Ézéchiel est un prophète dont la prédication est d'un style parole et geste. Il accompagnait toujours sa parole, ses démonstrations de geste. C'est ce que Dieu lui inspirait. Par exemple, il a pris deux bouts de bois dans la main pour signifier la réunification d'Israël dans le futur. C'était une promesse lointaine, mais qu'un jour, Israël serait de nouveau un peuple. Vous savez que dès que Salomon a disparu, il y a eu cette scission. Un autre exemple de la vie, de la démonstration de ce prophète, pendant 390 jours, il a dit rester couché sur un côté. Il n'a pas eu le droit de bouger, il a dû rester couché pendant 390 jours pour signifier la faute, pour porter la faute d'Israël. Et quand les 390 jours étaient passés, Dieu lui a dit « Retourne-toi et prends 40 jours pour Juda ». Il a incarné son métier de prophète, si je peux dire. Et puis, un autre exemple qu'on va lire ensemble, dans Ézéchiel 24, les versets 15 à 24, alors là, tenez-vous bien, il incarne le message de la souffrance à cause du péché. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, et ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas de pain, pas le pain des pauvres. J'avais parlé au peuple le matin même, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ?» Je leur répondis, « la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, et vous ne vous lamenterez pas, et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités, et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe, vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quel message! Et le matin, on le prévient, et il doit l'annoncer, ta femme te sera prise. C'est atroce pour cet homme, n'est-ce pas? Et en plus, comment il doit vivre son deuil, pas dans les traditions des Israélites, pour soi, en cachette, et continuer à exercer. Voilà ce qu'a vécu Ézéchiel dans sa chair. À partir du chapitre 40 de ce livre, Ézéchiel, après 25 ans d'exil, il est emmené en vision à Jérusalem. Il reçoit une vision détaillée du temple de Dieu. Le temple ancien de Salomon est détruit. Et là, un homme, dont l'aspect était celui de bronze, il est dit, un géomètre de Dieu qui avait un cordon de lin et une canne à mesurer dans la main. C'est cet homme qui, tout en prenant les différentes mesures du temple, fait découvrir à Ézéchiel tous les détails du pied-à-terre de l'Éternel, Yahvé, sur la terre. Le temple, c'était le pied-à-terre où Dieu visitait son peuple. Et là, pendant des chapitres, cet homme accompagne Ézéchiel. Il prend des mesures avec son cordeau et avec sa baguette et il détaille. Et Ézéchiel découvre en même temps ce qui se passe. Nous allons lire dans le chapitre 47, les versets 1 à 12. Pardon. Et je vous dis pourquoi nous le lisons dans la Bible en français courant. J'ai lu dans la Bible allemande, et donc il est question du fleuve de Dieu. Beaucoup connaissent ce passage où de l'eau jaillit du temple. Et dans les versions habituelles, il est dit qu'à un moment, ce torrent, coule dans un fleuve et après il coule dans la mer. Mais ce n'est pas spécifié, alors que chez Luther et dans la Bible en français courant, le fleuve s'appelle le Jourdain et, c'est important, il se jette dans la mer morte. Alors, nous allons lire ensemble. « L'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que de l'eau jaillissait du dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. » L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Il avança vers l'est. Il tenait un cordeau à la main avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. Puis il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau. Elle m'arriva aux genoux. Au bout de 1000 mesures suivantes, il me fit de nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta une dernière fois 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser car l'eau était montée à un niveau où il faut nager. C'était devenu un torrent infranchissable. Il me dit, « As-tu bien regardé, toi ?» L'homme, il m'emmena un moment à l'écart, puis me ramena au bord du torrent. Je constatai alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur chaque rive. L'homme me dit, « Ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et débouche dans la mer morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Alors, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, il y aura des pêcheurs qui mettront leurs filets à sécher sur les bords de la mer. On y trouvera autant d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Cependant, les marais et les lagunes de son littoral ne seront pas assainis. On les gardera comme réserve de sel. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Jusque-là. Alors, nous avons là un long fleuve tranquille. C'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? De l'eau sortait sous le seuil de la maison. Dieu n'est pas reclus dans son temple. Il déverse un flot de bénédictions sur la terre aride. Il faut se rappeler le contexte que nous avons vu tout à l'heure. Israël est vraiment en mauvais état. Et là, Ézéchiel a une vision d'avenir formidable. Ézéchiel est témoin que cette eau provient du cœur du temple. Il l'a bien visité, ce temple. Avec son compagnon géomètre, ils font le tour extérieur du bâtiment pour voir par où l'eau quittait le lieu saint. À la fin du deuxième verset, Luther traduit « l'eau bondissait ou jaillissait à travers le mur ». C'est vraiment quelque chose de puissant. Dans cette traduction, il est dit que l'eau s'écoulait vers l'Orient. Cette vision prophétique peut avoir deux sens. La venue de Jésus, Dieu déverse sa grâce, et deuxièmement le rétablissement d'Israël, et par la suite les nouveaux cieux, la nouvelle terre, selon Apocalypse 22. Vous vous souvenez, là aussi, il y a ce cours d'eau qui sort du trône de Dieu. Ézéchiel doit être stupéfait de ce qu'il découvre. Le constat est fait. L'eau sort du temple de Dieu et, ô miracle, son flot augmente puissamment. Au fur et à mesure qu'elle dévale la pente, et il n'est pas question qu'il y a des affluents, que l'eau elle vienne d'ailleurs. En général, quand il y a une source d'eau, un fleuve prend sa source et après, des affluents le grossissent pour faire vraiment... D'abord, il y a une petite source et à la fin, c'est un fleuve qui va se jeter dans la mer. Et ici, le fleuve... Il s'amplifie de soi-même. Le prophète est témoin testeur de la chose. Il est question de mesure. Dans les autres traductions, c'est marqué « coudé ». Donc, chaque fois, cet ange, ce géomètre, il mesure 1000 coudées. Et 1000 coudées font à peu près 525 mètres. Donc, un demi-kilomètre. Un demi-kilomètre après le seuil d'où l'eau sort, ou du mur d'où l'eau sort, l'eau, c'est déjà un petit ruisseau, un ruisselet. Après 1000 coudées mesurées par ce témoin, cet expert, Ézéchiel est invité à traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. De quoi se rafraîchir les pieds, n'est-ce pas? 525 mètres plus loin, il a de l'eau jusqu'au genou. La progression est quand même rapide. Encore 525 mètres, l'eau lui va jusqu'au rein. À chaque point de mesure, le constat est indéniable. Le flux augmente à une vitesse impressionnante. Chaque fois, le prophète est appelé à traverser par ses propres moyens. Il me fit traverser. Là, ça passe. Mais alors qu'on se retrouve à 2100 mètres de la source, c'est un torrent puissant, infranchissable. Pour traverser, il faudrait se laisser porter. Ézéchiel est interpellé. As-tu vu, fils de l'homme ? As-tu constaté ça ? Nous aussi, nous sommes interpellés quand Dieu fait des grandes choses. Il nous dit, mais tu as remarqué ce que j'ai fait là ? Nous sommes tellement... Parfois, nous ne considérons plus les œuvres de Dieu. As-tu vu, fils de l'homme ? Tu ne peux pas traverser par tes moyens. L'ange de Dieu le ramène au bord, et là, il voit beaucoup d'arbres sur les rives du torrent. L'eau, c'est la vie. Ces arbres sont sortis, c'est une vision. Mais parce que tout à coup, il y a un torrent, et des semences peuvent germer et partir. La végétation se développe rapidement à proximité du torrent. Cette eau va arroser la plaine du Jourdain. Elle s'engage dans le lit du fleuve pour se jeter dans la mer morte. Et humainement, c'est un non-sens. Vous avez de l'eau vive. Vous pouvez regarder une carte d'Israël. Il y a 5-6 ruisseaux et un fleuve, le Jourdain, qui se jette dans la mer morte. Et il n'y a pas de sortie. La mer morte... Tout s'évapore. Elle est à moins 394 mètres en altitude zéro, à moins 394 mètres, et il n'y a pas de sortie. Quel gâchis. On envoie une eau fraîche, et là, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est pour ça qu'il y a une telle densité de sel aussi dans cette mer. Tout ce qui coule dans la mer morte s'évapore. Il n'y a pas de sortie. Cette mer est stérile, salée à mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Pas de vie comme son nom l'indique. La mer morte, das tote Meer. Et voici que Ézéchiel apprend que le fleuve de Dieu va assainir, vivifier les eaux mortes. Chaque fois qu'il y a un contact avec, que cette eau entre en contact avec une eau qui est même immobile, cette eau devient saine, cette eau devient vivable, elle est vivante. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout ce qui est touché par ce torrent est assaini. Et pas seulement un petit temps, il est dit, on fera sécher, nous l'avons lu, des filets de pêche sur les rives de En-Gedi, et ensuite, on pratiquera la pêche, et pas juste un peu la pêche pour, en loisir, où on va juste introduire quelques poissons. Non, on va pratiquer la pêche. Il y aura toutes sortes de poissons, comme dans la Méditerranée. C'est quand même impressionnant. Le lac de Génézareth était un petit lac par rapport à la mer Rouge. Là-bas, il y avait du poisson. Mais ici... Personne de mémoire d'homme n'a pu pêcher. C'était mort. Il y aura toutes sortes de poissons, mais les marais et autres trous d'eau qui ne sont pas en contact direct avec la mer ne seront pas touchés, ils ne seront pas assainis. Il faut que l'eau vive les touche. Il faut que cette eau qui sort du temple de Dieu touche. Là où elle touche une autre eau, celle-là, elle est propre. Elle est vivable. Vous ne pourrez que y récolter du sel. C'est tout ce que vous pouvez faire là-bas. Tout au long du fleuve, les rives sont bordées d'arbres fruitiers, de toutes sortes. Comme en Éden, au début. Il y aura des fruits tous les mois de l'année. Pas besoin de faire des réserves. Vous cueillez, vous mangez à l'arbre. C'est formidable. Ce n'est pas comme en Alsace ou en automne, on essaie de récolter. Maintenant, on a des chambres froides, mais il faut s'équiper, n'est-ce pas ? Et il faut anticiper. Là, tous les jours de toute l'année, il y a des fruits. Et même les feuilles de ces arbres, touchées par les eaux pures du temple de Dieu, sont vertueuses. Elles serviront de remède. En Apocalypse 22, vous pourrez relire ça. C'est pareil, l'eau qui sort du temple est un remède. Comme cette eau jaillissant du lieu saint, Jésus est sorti de Dieu. À Bethléem, quelques personnes ont entendu la bonne nouvelle quand il est né. À Cana, de l'eau dédiée au lavage des pieds est devenue une boisson délicieuse servie lors de noces. Sur les rives du lac de Génézareth, où le poisson se faisait rare ces jours-là, sur son ordre, les filets jetés étaient pleins à craquer. À la femme samaritaine, Jésus a affirmé, Jean 4, 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et au verset 14, « Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Lors de la fête des tabernacles, des récoltes, dans Jean 7, 31, il est dit, « Le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus, Dieu fait homme, est venu déverser l'amour de Dieu dans les cœurs, comme ce fleuve. Personne de ceux qui ont croisé son chemin n'a pu rester indifférent. Telle l'eau sortant du temple à son contact, la vie a jailli. Là où la maladie, le péché, la mort, l'infirmité régnaient, d'une parole, d'un toucher, d'un contact, la vie, la santé, la sainteté ont été restaurées. Ceux qui ont refusé son pardon, sa grâce, son contact salutaire, sont restés stériles comme ces marais. Ils étaient juste à côté, mais ils ne voulaient pas de contact. Ils sont restés morts, abandonnés au sel. Jésus a commencé avec 12 hommes. Depuis, le nombre de ses disciples n'a cessé d'augmenter. À la Pentecôte, le flot s'est démultiplié, tout d'un coup. Et 2000 ans après, l'Église du Seigneur est encore là pour qu'à son contact, le monde mort accède à la vie. Et ça, c'est important de savoir que ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas été touchés, sont morts. L'oxygène de chaque nouvelle naissance reste toujours la même, la grâce de Dieu qui coule de la croix de Golgotha. Nous n'avons pas d'autre message à apporter. Seul l'amour de Dieu qui coule dans nos veines peut contaminer nos contemporains. Ça, c'est une bonne contamination, n'est-ce pas ? Pour que eux aussi puissent passer de la mort à la vie. J'aimerais encore revenir un peu, quelques instants, sur les points de mesure de jauge du géomètre. La source de Dieu est intarissable. Dans Apocalypse 22, le fleuve qui coule du trône de Dieu est d'une eau limpide, comme du cristal. C'est de l'eau pure, bonne. Dans notre cheminement, nous avons découvert la source de la guérison, de notre état de misère pécheresse, nous sommes passés de dégénérés à régénérés. La dégénérescence, être dégénéré, c'est être voué à la mort, et nous sommes passés de dégénérés à régénérés. Où en sommes-nous dans notre marche avec Christ ? On mouille un peu les doigts de pied en tâtonnant. C'est un risque minime. Hein, les premiers 500 mètres là qu'ils ont fait quand il a dû traverser. Le rafraîchissement aussi est minime quand nous touchons juste un peu avec les doigts de pied jusqu'à la cheville, d'accord ? On s'aventure jusqu'aux genoux. là, on sent déjà mieux les bienfaits. Ça active la circulation du sang, n'est-ce pas? On commence à revivre. Il faut se rappeler que la région est aride là-bas. Quand il fait chaud en été, quand on peut se tremper jusqu'aux genoux, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? On ose pousser jusqu'aux reins. Je ne parle pas du rein, je parle des reins. C'est une belle progression. On se sent presque comme un poisson dans l'eau. Je dis presque, parce que c'est encore nos assurances, c'est encore nos efforts qui nous permettent de traverser et de choisir le moment. Le contact avec le Seigneur est déjà beaucoup plus intense. Mais dans ces trois situations, on maîtrise encore. On peut traverser sans encombre. Il faudrait déjà vraiment trébucher et être en mauvais état. Mais sinon, on peut traverser. Si nous sommes appelés à entrer dans le torrent, lâcher prise, comme Alexandre en a parlé dimanche dernier, être prêt à mourir, ça, c'est une autre paire de manches. Avoir confiance d'être porté, à l'image du baptême, risquer d'être immergé. Là, l'eau qui jaillit du trône de Dieu peut faire une œuvre complète dans nos vies, achever notre sanctification. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Mais si nous nous laissons porter par Dieu, les circonstances que lui, il gère, qu'il permet, il fait de sorte que nous allions vers sa grâce et que nous soyons gardés en lui, mais plus sur nos assurances. Ézéchiel n'a pas vu le début de la réalisation de sa vision. Lui, il avait juste une vision. Il a certainement compris que de l'eau qui se jette dans la mer morte et qui la vivifie au point qu'il y ait des poissons qui puissent y vivre, c'est stupéfiant. Mais le reste, il n'a pas connu. En Jésus, sorti du sein de Dieu, l'amour a été déversé dans nos cœurs. Et plongé dans les bras de notre Papa céleste, nous promet un avenir serein. Ce n'est plus « je compte sur moi, je mets mes remparts, je mets mes assurances ». Un avenir serein dans un monde aride et stérile. L'eau qui coule du trône, le fleuve de Dieu, promet une aventure surprenante. Et c'est lui qui connaît nos lendemains. Nous avons vu, Ézéchiel n'avait pas très souvent des jours heureux humainement. Mais c'était un homme qui était proche de Dieu. Et que nous puissions aussi accepter que le Seigneur dirige notre barque et il y a aussi des tempêtes. Amen. Prions encore. Père, quelle image magnifique de ta grâce qui coule. Et tu sais où nous en sommes. Si nous sommes engagés dans ce fleuve, dans ce torrent, tu sais aussi là où sont nos réticences à avancer. Et nous te demandons, Seigneur, laisse grandir notre foi afin que nous nous laissions porter par toi. Nous devons être oui, de l'eau contaminante pour nos prochains, Seigneur, de l'eau vivifiante, pour que beaucoup puissent encore trouver la vie. Seigneur, c'est ton désir et tu es patient dans notre monde. Tu es très patient pour que plusieurs puissent encore trouver la vie en toi, boire de cette eau vive. Bénis chacun d'entre nous et donne-nous aussi, au cours de cette semaine, Seigneur, de pouvoir transmettre un peu de cette eau. Amen.